Salut, moi c'est Angie. Bienvenue sur mon podcast, ben ma balado, ben dans mon bullet journal, là. Ben en fait, bienvenue dans mon cerveau. Salut, comment ça va cette semaine? Hey, je suis contente de vous retrouver. Je suis vraiment contente parce que écoute, je pensais pas. Mais je vois que vous aimez ça quand je parle de sujets qui touchent la santé mentale, mais dans un autre but, là, tu sais, comme la bienveillance, l'amour de soi. Fait que là, j'y vais dans le vif. Je vais dans le vif. Je m'en vais dans le bobo. Je vais te parler cette semaine de santé mentale. Je vais te parler de deux choses. Je vais te parler de santé mentale. Quand est-ce qu'on s'inquiète pour quelqu'un? Parce que souvent, ou pour soi-même, là, c'est quoi les signes qui, OK, là, ça marche plus, faut faire quelque chose. On va parler de ça, puis on va parler aussi des principes d'autogestion. C'est quoi l'autogestion? Je vais t'en parler. C'est aussi simple que ça. Fait qu'on est parti. Cette semaine, on jase santé mentale, mais dans un but positif, là. On n'est pas en train de s'apitoyer sur notre sort, puis on n'est pas non plus en train de prendre ça très sérieusement. Oui, c'est sérieux, la santé mentale. Mais moi, je prends pour acquis que si tu écoutes ceci, c'est parce que tu prends ta santé mentale en main. Donc, si tu écoutes ceci puis que tu fais du développement personnel, c'est que tu te soucies de toi. Je pense pas que tu sois en détresse psychologique actuellement. Sauf que si c'est le cas, au moins, je vais te donner les outils pour que tu t'en rendes compte. Puis, on va se donner les outils pour se gérer. Auto-gestion, on se gère soi-même. Fait que voilà, c'est parti, installe-toi. On commence ça. Fait qu'on est parti. Jason, santé mentale. D'abord, je veux juste qu'on mette quelque chose au clair. Tout le monde a une santé mentale. Tout le monde n'a pas de trouble de santé mentale, mais tout le monde a une santé mentale. C'est quoi la santé mentale? C'est la santé de ce qui se passe dans ta tête. La santé de ce qui se passe dans tes pensées. La santé de tes pensées. Si tu as déjà vécu un épisode de trouble de santé mentale, tu sais que quand ça va pas bien dans ta tête, ton corps va pas bien non plus. Je vais te parler de mon expérience à moi. Moi, j'ai fait une collection de burn-out, de dépression, de toutes sortes de choses. Je suis une angoissée. J'ai eu un diagnostic d'anxiété généralisée à une certaine époque de ma vie parce que je n'étais plus capable de fonctionner. En fait, déjà là, je te donne un bon indice, la santé mentale, quand ça ne fonctionne plus, tu n'es plus capable de fonctionner. Quand on n'est plus capable de fonctionner, quand ça l'affecte directement l'impact sur le fonctionnement de ton corps, de ta routine, de tes trucs, vraiment là, on parle d'un trouble. Un trouble, ça se guérit la plupart du temps. Puis, en santé mentale aussi, il y a des gens qui guérissent, il y a des gens qui guérissent pas. OK? Il y a des maladies qu'on ne sait pas encore comment guérir. Mais en santé mentale, on se rétablit. Toutes les maladies, on peut se rétablir. C'est quoi le rétablissement? Le rétablissement, c'est que tu apprends à vivre avec un enjeu, puis tu fais avec. Tu es capable de travailler avec les forces de cet enjeu-là et non plus avec les faiblesses. Tu sais, par exemple, quand on parle de grandes maladies mentales, là, les maladies mentales qui sont les plus graves, entre guillemets, souvent on va référer à bipolarité, schizophrénie, trouble de personnalité limite. Un trouble de personnalité limite, c'est pas si grave que ça, vraiment, là. C'est grave. Si t'as quelqu'un dans ton entourage qui a un trouble de personnalité limite, tu dois avoir envie de m'égorger avec cette phrase-là. C'est pas facile de vivre avec quelqu'un qui a un trouble de personnalité limite. C'est pas facile de vivre avec un trouble de personnalité limite. Mais il y a des façons aujourd'hui, il y a des interventions, il y a des thérapies, il y a des groupes, il y a toutes sortes de choses qui existent pour apprendre à vivre avec. Apprendre à vivre avec, ça fait toute la différence. Apprendre à vivre avec, ça veut dire prendre les symptômes positifs, puis les arroser pour qu'ils deviennent des super fleurs. Ça veut dire aussi s'adapter. Là, je repars. La santé mentale, c'est quoi? La santé mentale, c'est ce qui se passe dans ta tête. Quand est-ce qu'on sait que ça va pas bien? T'sais, là, je vais te donner des indices. Parce que la santé mentale, vu que c'est dans la tête, tu peux pas voir la blessure et faire « Ah ouais, OK, il y a du pu, allons à l'hôpital. » OK, non, c'est juste écorché, on va mettre un pansement. La santé mentale, quand tu la constates chez quelqu'un de proche de toi, c'est difficile à évaluer parce qu'on la voit pas. On a juste des indices. C'est là qu'il faut jouer un peu à Sherlock Holmes. Puis des fois, c'est envers soi-même qu'il faut jouer à Sherlock Holmes. Fait que déjà, des signes, là, je t'en donne. Des signes, des grands signes, il y aurait l'isolement. Une personne qui est très extravertie, qui se met à s'isoler tout d'un coup, sans rapport avec la pandémie. Mais l'isolement, ça a c'est un grand indicateur. Si tu t'isoles, souvent c'est pour te retrouver tout seul. Quand tu es tout seul, si tu broies du noir, si tu rumines, c'est pas un bon signe de santé mentale, ça. Quand on parle aussi d'une perte d'intérêt. Toi, tu tripais sur, faire des colliers. Puis là, tout d'un coup, là, faire un collier, ça semble être une montagne pour toi. Ça, c'est un signe que ça va pas bien. Quand tu perds l'intérêt envers tes passe-temps, puis des fois, ça arrive. Tu sais, moi, je tripe sur le tricot, puis ça arrive des journées que je tricote pas. Puis là, mon chum me demande, « Coutons, t'as pas tricoté aujourd'hui? » Ben non, ça me tentait pas. Mais si je dis non, ça me tentait pas pendant 3 jours d'affilée, là, il va me demander, « Coudonc, comment ça se passe, NG? Ça va-tu bien? » C'est des indices comme ça, bien souvent, qui nous aident, qui nous aiguillent. Il y a la négligence physique aussi. Quand on est en dépression, quand on vit un épisode de trouble de santé mentale, des fois, là, aller prendre sa douche, c'est un obstacle. Aller prendre sa douche, là, c'est tout un projet d'une journée, là. Puis, parce qu'il y a ça aussi. Pour avoir vécu des dépressions, je te parle de mon expérience. Moi, en dépression, j'étais plus capable de rien faire. Prendre une douche, c'était le projet de ma journée, là. D'un, je ne voyais pas l'intérêt de prendre une douche parce que j'étais en plein isolement. Donc, je m'isolais, je voyais pas personne. Ça avait pas d'impact sur personne que je prenne une douche ou non. J'habitais toute seule. J'avais pas l'intérêt de sortir, j'avais pas d'intérêt d'aller à l'extérieur, de rencontrer des gens. Fait que la douche devenait secondaire. Très, très secondaire. Puis ça pouvait arriver que je prenne pas de douche pendant 2 ou 3 jours parce que ça me tentait pas. Puis là, à un moment donné, je puais tellement, je m'écœurais que je faisais OK, je vais prendre ma douche, mais c'était le projet de ma journée. Fait que ça aussi, c'est des signes. C'est sûr que là, je te parle de gros signes. Mais il y a d'autres signes. Parce que les hommes et les femmes, on ne vit pas la santé mentale de la même façon. Les hommes, souvent, ça va être beaucoup plus physique. Ou les gens qui ne veulent pas parler de leurs émotions. Il y a beaucoup de femmes aussi qui ne veulent pas parler de leurs émotions, qui ont été élevées comme ça. Ou qu'on ne sait pas parler de nos émotions. On n'a pas nécessairement été élevés pour parler de nos émotions. Quand tu ne parles pas de tes émotions, quand tu vis ta douleur, ben ça arrive que ton dos te le dise. On l'a à peu près tout connu, là, un mal de dos épouvantable qui nous empêche de fonctionner. C'est quoi l'origine de ton mal de dos? Ou tu sais, encore beaucoup, en période de dépression, d'anxiété, les bipolaires et les schizophrènes quand ils sont en phase psychotique, souvent aussi. Je te dis pas que ça veut dire une psychose, puis je te dis pas que ça veut dire une dépression. Mais l'insomnie, c'est un signe que ça va pas bien. Ça peut être un excellent signe. Bon, il y avait du bruit derrière moi, j'ai arrêté. Je reprends. Donc, pour les mots physiques, là, il y a aussi la perte ou l'augmentation de l'appétit. Quand il y a des changements au niveau de l'appétit, on peut s'inquiéter. Quelqu'un qui mangeait 3 repas par jour, qui là, tout d'un coup, mange 10 repas par jour, ben c'est comme obvious, c'est évident, il y a quelque chose. Ou quelqu'un, par exemple, qui mangeait 3 repas par jour, qui tout d'un coup n'en mange qu'un seul, il y a quelque chose là aussi. Donc, à voir. Enfin, il y a aussi les symptômes émotifs. Tu as la perte du sens de l'humour. Avant, tu écoutais des comédies, puis là maintenant, les comédies, ça te tape ses nerfs. T'es allé voir des spectacles d'humour, là, tout d'un coup, oups, ça marche plus. Ou t'avais un très grand sens de l'humour, puis là, tout d'un coup, ton meilleur ami te jase, puis tu ris plus. Ah, inquiétant. Perte du sens de l'humour. Ou tu sais, si t'as une humeur triste, tu marches, puis tu regardes tes pieds non-stop. Ça, c'était. Moi, ça, c'est un de mes symptômes. Quand je marche en regardant mes pieds, maintenant, c'est un red flag. Ça veut dire, NJ, surveille-toi. Parce que quand je marche en regardant mes pieds, c'est soit que je suis préoccupée, donc ça, c'est correct. Mais si je marche en regardant mes pieds pendant plusieurs journées, ben souvent, ça va m'indiquer, OK, t'as l'humeur dans le tapis actuellement. Quand je regarde mes pieds avancer, c'est pas bon signe. Puis enfin, ben c'est sûr que émotivement, tu peux avoir aussi des propos suicidaires, là. Ah, ça serait mieux si j'étais pas là. Si j'étais pas là, ça. Tu sais, ça. Puis plus généralement, t'as aussi une perte de concentration ou une perte de mémoire, une perte de focus. T'as l'impression que ton cerveau réagit plus comme d'habitude. Ça, c'est des symptômes. C'est des symptômes. Moi, j'ai d'autres red flags. Moi, par exemple, j'ai réalisé qu'avec le temps, que quand je me mets en mode survie, quand je suis en mode survie puis que je n'agis plus en fonction de moi, mais en fonction de répondre à chaque responsabilité que je vois, ça, quand je suis en mode survie comme ça, moi, c'est un red flag. Quand je coupe le temps de mes repas, de mon me time, quand je coupe du temps dont j'ai besoin pour moi, pour travailler, ça aussi, moi, c'est un signe de burn-out. Ça dépend de chaque personne, c'est propre à chaque personne. Chaque personne va réagir de façon différente, puis il faut s'écouter. Mais c'est à peu près ça, la santé mentale. La santé mentale, là, c'est quand il y a quelque chose, il y a un nuage noir dans ta tête qui t'affecte. Puis le nuage noir, il passe pas. T'sais, ça arrive des mauvaises journées, une journée, deux journées, trois journées, on a moins d'énergie, on manque de soleil, on est plus bougon. Ça arrive. C'est pas une dépression. Là où ça devient problématique, c'est quand ces symptômes-là perdurent dans le temps. Quand ça fait un mois que t'es comme ça, là, inquiète-toi, s'il te plaît. Puis, c'est quoi le lien avec le bugeot, tu sais, parce que il y a ça aussi, là, c'est quoi le lien entre la santé mentale puis le bugeot? Moi, il est fort. Moi, ma santé mentale, je la gère dans mon bugeot, je m'auto-gère dans mon bugeot. Donc, c'est pour ça que je t'en parle, je trouve ça important. Tu sais, je t'ai déjà dit, moi, je me note à tous les jours. À tous les jours, le matin, je regarde puis je me donne une note. Comment je file aujourd'hui? Je file à 7,5, je file à 8, je file à 9, je file à 6, je file à 2. Mais ça me permet de conserver une trace de mon humeur. Donc, tu sais, si à un moment donné, je fais, ouais, on me semble, ça fait une couple de jours que je ne vois pas bien, ben, je peux ouvrir mon bullet journal puis regarder, OK, ça fait combien de temps là, que je suis en bas de 6 au niveau de l'humeur? Mettons, disons, il y a quelqu'un dans ton entourage qui t'inquiète. Quand est-ce qu'on s'inquiète? Quand est-ce qu'on lève un drapeau rouge, là? On s'inquiète quand on voit que le comportement de la personne change. C'est comme je disais tantôt, elle s'isole plus, elle a plus d'humour, elle te parle de ses problèmes d'insomnie. On peut commencer à s'inquiéter, là. Puis on s'inquiète surtout quand ça perdure dans le temps. Quand ça fait un mois que la personne s'isole, quand ça fait 3 semaines que tu ne l'as pas entendu rire, quand ça fait X temps, là, tu peux commencer à dire, écoute, je m'inquiète pour toi. Je t'inquiète pour toi. Je t'aime, puis j'aimerais ça que ça aille bien. Je me sens impuissant actuellement pour t'aider. Ça se dit, ça. Je te partage une autre expérience. Moi, il y a longtemps, je vivais avec une personne, puis la personne s'est mise à avoir des propos incohérents. La personne a commencé à croire qu'il y avait des caméras dans le sapin de Noël. Les caméras la filmaient. Puis là, elle avait des amis imaginaires. Moi, j'ai laissé perdurer ça dans le temps parce que je ne savais pas comment agir. Ça a pris 2 mois. 2 mois. ça a dégénéré, là. Ça a commencé par je pense que la radio me parle, je pense qu'il y a des caméras dans le sapin de Noël, finalement, on me filme, finalement, je peux plus sortir de la maison parce que on me veut du mal. Donc là, ça devenait très gros. Moi, je savais pas ce que c'était. J'ai appelé mon médecin, je lui en ai parlé, et le médecin a dit, ça ressemble beaucoup à une psychose. C'est quoi une psychose? Une psychose, c'est quand les gens perdent le contact avec la réalité. C'est que là, ils ont des idées qui fonctionnent plus. Moi, dans l'expérience que j'ai, dans les gens que j'ai vus en psychose, il y avait beaucoup d'amis imaginaires. Il y avait des gens qui entraient en contact avec eux de façon télépathique. Quand il y a quelqu'un qui entre avec quelqu'un d'autre en contact de façon télépathique, ça peut être un bon indice. Puis là, c'est difficile aussi. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une personne devant nous qu'on soupçonne d'être en psychose? Moi, j'aime la transparence. Moi, j'aime qu'on dise les vraies choses. J'aime qu'on parle au jeu. Fait que moi, quand ça arrive, ben, je vais voir directement la personne. Je préconise qu'on parle à la personne. Je suis inquiète pour toi. Je te reconnais pas. Je veux que tu ailles bien. Je veux aider. Mais je ne sais pas comment t'aider. Est-ce que tu viendrais avec moi? On va aller voir un médecin. On va aller à l'urgence. Est-ce que tu voudrais venir avec moi? Est-ce que tu voudrais que je t'accompagne? Ça se dit, ça. Donc, si jamais ça arrive, je te donne mes outils. Maintenant, on peut aussi se demander, c'est quoi la différence entre un burn-out et une dépression? C'est-tu la même affaire? Non, ça se ressemble beaucoup. C'est comme des jumeaux. Ils ont un lien familial, mais c'est pas la même chose. Le burn-out, c'est vraiment un épuisement au niveau du travail. Le sens du travail est remis en cause. On ne le voit pas pourquoi qu'on va travailler. C'est vraiment, c'est spécifique au travail, c'est relié au travail. C'est comme une dépression, mais relié au travail. Fait que souvent, on va trouver un épuisement émotionnel. On va trouver de l'anxiété. On va trouver de l'insomnie. On va trouver justement la perte du sens de l'humour. Ça, il y a ça dans le burn-out. Dans le burn-out aussi, il y a un genre de cynisme face au travail. Le travail ne sert plus à rien, on ne voit plus le sens. Donc, on devient cynique par rapport au travail, ça ne sert à rien. L'entreprise pour laquelle je travaille, elle se fout de moi. Je suis juste un numéro. Ça ne sert à rien. C'est comme le nouvel esclavage. Puis souvent aussi, il y a une diminution des accomplissements personnels au travail. On n'arrive plus à se trouver un sens, fait qu'on n'a plus envie de s'accomplir au travail. Donc, peut-être qu'avant, la personne était super performante pour des ventes. Elle vendait beaucoup, puis elle vendait tout le temps, puis elle allait chercher beaucoup de valorisation là-dedans. Puis là, tout d'un coup, elle ne vend plus. Ou elle vend presque plus. Ou avant, tu dis, hey, waouh, bravo, tu as eu un nouveau client. Puis elle fait waouh. Et ça peut être inquiétant. Surtout si ça perdure dans le temps. Une fois, une mauvaise journée, ça arrive à tout le monde. Quand ça fait 2 semaines, 1 mois, 2 mois, wow! Là, on peut aller voir la personne. Je m'inquiète pour toi. Je t'aime, puis je m'inquiète pour toi. Je t'apprécie, je m'inquiète pour toi. Quand on parle de dépression, c'est sur tous les aspects de la vie. Ça teinte tous les aspects, pas juste le travail. Ça teinte les amitiés, ça teinte la famille, ça teinte la vie personnelle. C'est que là, c'est plus juste je comprends pas pourquoi je vais travailler. C'est je comprends plus pourquoi je vis. La perte on n'a plus juste. Le cynisme, il est plus juste face au travail, mais il est face à la vie. On perd l'espoir. La dépression, souvent aussi, c'est associé à une faible estime de soi. Oh, je vaux pas la peine. Oh, je mérite pas ça. Oh, c'est normal que ça m'arrive, je suis un loser. La personne pouvait avoir une excellente estime d'elle, puis là, tout d'un coup, en dépression, boum, ça descend. La dépression, c'est insidieux. On ne s'en rend pas compte, mais elle est là. Puis elle n'est pas visible. Puis la dépression, là, pour vrai, il y a des journées où ça peut bien aller. Puis il y a des journées où ça va mal. Le signe qu'on est en dépression, c'est qu'il y a plus de journées où ça va mal que de journées où ça va bien. Puis tout ça m'amène à jaser d'autogestion. C'est quoi l'autogestion? L'autogestion, c'est de se gérer soi-même. C'est se regarder aller puis de se prendre en main. Dans des cas de dépression, c'est difficile de le faire tout seul. Moi, si tu souffres de santé mentale, je te conseille trois choses. Soit va au CLSC, va voir un psychologue. Essaye. Parce que je le sais, c'est pas évident, les psychologues sont débordés de partout avec la pandémie. Mais si c'est possible pour toi d'aller voir un psychologue, vas-y. C'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut pas se faire, une thérapie. Si c'est pas possible, le psychologue, ben, il y a des groupes d'entraide qui existent. Entre autres, je pense à Montréal, il existe Mon Relief. Mon Relief aide les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et aide l'entourage des gens aux prises avec la santé mentale. Parce que si je te parle de santé mentale, c'est pas juste parce que ça affecte la personne qui souffre, ça affecte tous ceux qui l'aiment. Quand tu aimes une personne, puis que cette personne-là souffre, puis que tu n'as pas de pouvoir, c'est tellement difficile. Tu ressens une espèce de sentiment d'injustice à l'intérieur. Tu es comme, moi, je vais bien, je veux que l'autre aille bien, je veux faire quelque chose, mais on ne peut pas rien faire. Fait que voilà. Il existe aussi des organismes qui viennent en aide directement à la famille, aux amis, aux proches des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Au Québec, entre autres, il y a un organisme pour les proches. Donc, tu peux appeler là. Ça s'appelle l'ACPAM. A-Q-P-A-M-M. M comme maladie mentale. Cet organisme-là, au pire, va te diriger vers d'autres organismes, mais eux sont là pour aider les proches. Donc, un proche d'une personne qui aura un problème de dépression, un proche qui aura un problème de trouble de personnalité limite, un proche qui aura un trouble de bipolarité. Tout ça, tous ces proches-là peuvent se retrouver entre eux. Il y a un espace pour eux. Quand tu vas pas bien, il y a plusieurs façons, que ce soit toi ou quelqu'un d'autre. Okay? Tu as soit un psychologue, tu as des intervenants qui peuvent aider. Dans les groupes, tu as des groupes dans chaque région presque. Tu as des groupes pour les gens qui souffrent de santé mentale, puis tu as des groupes pour gens de proches de santé mentale. Tout dépendamment de ton besoin, tu pourras te diriger vers une de ces deux ressources-là. Puis dans ces ressources-là, tu as plusieurs autres ressources. Dans ces ressources-là, normalement, ils font des formations. Soit des formations sur la maladie comme telle, apprendre c'est quoi la maladie. Ça, là, c'est tellement aidant parce que tu réalises que tu n'es pas la maladie. Tu sais, on ne dit pas que quelqu'un est un cancer, mais on dit que quelqu'un est bipolaire. C'est violent, ça. Quelqu'un a une maladie mentale. En fait, non, il est atteint de. Mais bref. Fait que dans les groupes, tu as soit de la formation pour apprendre à vivre avec les symptômes, apprendre à composer avec les symptômes, apprendre à. Ouais, c'est ça, à composer, je pense que c'est le meilleur mot. Ensuite, ils font aussi des groupes de soutien. Ça, c'est super aidant parce que ça te permet de relativiser puis de prendre du recul. Tu réalises qu'il y a d'autres proches de d'autres gens qui vivent des choses des fois pires que toi, des fois moins pires, mais ça te permet d'avoir un éventail. Moi, en tout cas, c'est à ça que ça m'a permis. Puis enfin, tu as aussi les ateliers. Ils font des ateliers pour les gens. Puis tu as aussi des intervenants qui interviennent en one-on-one, tu sais, en individuel. Tu peux avoir des suivis individualisés avec des intervenants comme des travailleurs sociaux, des psycho-éducateurs, toutes sortes de choses. Puis la plupart du temps, ces organismes-là, c'est gratuit. Fait que je t'invite fortement à aller regarder dans ta région qu'est-ce qu'il y a pour toi. Et tout ça nous amène au principe d'autogestion, parce que c'est là le lien, je trouve, avec le bullet journal, le plus gros lien avec le bullet journal. Parce que le premier principe d'autogestion, c'est se connaître. Connaître. Connaître nos forces, nos faiblesses, nos signaux d'alerte, nos signes précurseurs de rechute. Connaître la maladie, connaître les outils pour s'en sortir, connaître des stratégies, connaître des ressources. Notre bullet journal, c'est l'endroit où on met toute cette information-là. Tu sais, on a parlé justement de bienveillance, on a parlé d'amour de soi, on a parlé d'écrire ses forces, ses faiblesses, je t'ai parlé de mes red flags, tu sais, les signes précurseurs de rechute, justement. Moi, c'est mes red flags, les signaux d'alerte, mes notations, donc, dans un premier temps, on rassemble nos connaissances sur tout ça dans notre bullet journal. En tout cas, moi, c'est ce que je préconise. Après ça, on peut évaluer. Qu'est-ce qui influe mon bien-être? C'est quoi les facteurs de stress? C'est quoi que je vis actuellement? Comment je me sens actuellement? Ça fait-tu longtemps que je me sens pas bien? C'est nos petites notes là qu'on se donne à tous les jours. Donc, dans notre principe, dans notre bullet journal, on peut regarder aussi comment on va. On peut regarder nos suivis. J'ai-tu bien dormi? Je dors-tu 8 heures? Est-ce que je manque de sommeil? Est-ce que je fais de l'insomnie? Est-ce que je passe des bonnes journées? C'est quoi mes habitudes ces temps-ci? Donc, on apprend vraiment à s'évaluer à travers le bullet journal. Puis après ça, là, on rentre dans deux autres principes plus concrets. Choisir. Là, un coup que tu te connais bien, tu as évalué ta situation, là, tu peux choisir. Là, tu peux choisir tes comportements. Qu'est-ce que tu peux faire pour changer? Qu'est-ce que tu peux faire pour t'adapter? Tu peux choisir ta nouvelle voie. OK, ben regarde, ça me rend malheureux. Je vais changer de voie. Tu peux aussi savoir quoi prioriser. OK, mais quand je vois telle personne, je suis toujours bien après. Je vais aller voir plus souvent cette personne-là. Ah, j'ai été me chercher de l'aide, j'ai vu que ça avait un impact positif, je vais y aller plus souvent. Puis justement, quand tu choisis, ben là, tu agis. Là, tu peux te faire un plan d'action avec des comportements, des buts, des actions, avec tout ce que tu veux réellement accomplir. Puis tu fais ton plan d'action en petits pas, là. Si tu veux arrêter de fumer demain matin, c'est peut-être trop gros. Tu pourrais commencer par diminuer. Ou tu pourrais commencer par noter combien de cigarettes tu prends pour connaître. Après ça, évaluer combien de cigarettes tu veux aller. Choisir, c'est quand tu coupes, c'est quand tu diminues, puis agir. On revient toujours à cette roue-là. Connaître, évaluer, choisir, agir. Quand tu agis, un coup, là, tu connais tes forces, tes faiblesses. Que tu as évalué où le problème. Là, tu peux choisir comment tu vas choisir ce que tu veux, vers quoi tu veux aller, puis agir pour y aller, faire le chemin pour y aller par petites étapes, pour pouvoir te féliciter entre chaque étape. Fait que voilà. Écoute, ça fait pas mal le tour. Là, pour ton information, j'ai pris tout ça. J'ai beaucoup, beaucoup, je me suis beaucoup inspirée d'un balado que j'ai entendu. Ça s'appelle Maker de rêve. C'est la partie 3, puis c'est une entrevue avec David Ford Johnson, qui est le directeur général de l'ACPAM, l'association dont je te parlais tantôt pour les proches. Je me suis beaucoup inspirée de ce qu'il a dit. J'ai pris des notes pendant le balado. Je trouvais ça super intéressant. Fait que c'est beaucoup de là que ça vient, tout ça. Fait que si tu as des questions, tu n'hésites pas, je suis toujours là. On me trouve par courriel, par Instagram. Tu tapes NG son bijou dans Google, tu vas avoir toutes les informations. Fait que voilà. J'espère que ça va t'aider. Je sais qu'on est au mois de février en ce moment, que l'hiver est dur, qu'il y en a plusieurs qui perdent l'espoir. On cherche la lumière, on n'est plus capable de l'hiver. Fait que, et pour toi et pour tes proches, prenez soin de vous autres. Vraiment. Parce que vous valez la peine, parce que vous le méritez, parce que t'es important, parce que t'es unique, puis parce que tu es spécial. Fait que sur ce, je te souhaite une excellente semaine. J'espère que tu vas super bien. Je te souhaite la banane, là, tu sais, le gros sourire. Je te souhaite des étoiles dans les yeux. Puis je te souhaite surtout un super beau bijou. Un bijou qui te ressemble. Fait que voilà, on se voit la semaine prochaine, ou plutôt, on se jase la semaine prochaine pour un autre mercredi. Fait que prends soin de toi. Merci encore de m'écouter. Merci de me suivre. J'ai même pas de mots pour te dire à quel point je suis reconnaissante. Merci vraiment. À bientôt!